Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir les Marx Sisters qui nous parlent de leur nouvel album de musique klezmer, A Room Dem Fire. Et pour commencer, on écoute Oi Mamé. Bonsoir les Marx Sisters.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors nous avons la chance aujourd'hui d'être nombreux sur ce plateau. Il y a Judith, il y a Léa, il y a les musiciens Benjamin Chabert et Raphaël Setti. Il faut dire que les Marx Sisters, c'est un trio de chanteuses qui le compose. Judith, Léa et Milena Marx, entourées de musiciens. Votre groupe a été fondé en 2013 par la regrettée Mano Siri. Votre identité musicale, qui est aussi votre mission, est claire: contribuer au renouveau de la musique des Juifs d'Europe centrale orchestrale et orientale, et c'est pour cette raison que le répertoire du groupe prend sa source au cœur de la chanson yiddish et de la musique klezmer. Vous avez sorti un premier album en 2017, plusieurs centaines de concerts sont à compter à votre actif, l'organisation d'un festival annuel mettant le klezmer à l'honneur, et les Marx Sisters se sont peu à peu imposés comme l'un des groupes qui compte lorsqu'il est question du renouveau de la musique yiddish en France pour tous les publics. Et votre actualité est donc la sortie de ce deuxième album, Arum Dem Fire, et j'espère que je prononce pas trop mal. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce titre de l'album, qui est aussi un morceau connu, hein, je crois, qui commémore l'existence des ghettos pour le jour du souvenir de la Shoah, a été aussi choisi comme le titre de tout l'album et du vinyle, hein, on va l'expliquer dans un instant, qui vient de sortir. Alors, Raphaël, est-ce que vous voulez vous y coller ?
Alors, Arum Dem Fire, ça signifie tout simplement, vous pouvez peut-être le deviner, autour du feu. Et en fait, l'idée avec ce morceau et cet album, c'était de réunir un ensemble de titres comme une veillée autour du feu, comme une veillée de chant, avec tout ce que ça a de champêtre, de festif, de mélancolique, de révolté aussi, donc des chansons de lutte, des chansons d'amour, tout ce qui nous est passé par la tête qui pouvait avoir un lien avec le feu, la flamme de l'intérieur. Et à partir de là, donc, on a réuni un ensemble de morceaux autour de ce morceau titre qui s'appelle Arum Dem Fire et qui était en fait un morceau plutôt du Bund. Donc le Bund.
Ce mouvement socialiste, voilà, créé en Russie, je crois. Et qui était attaché à véhiculer la langue yiddish, pas très sioniste. Hein.
Pas forcément sioniste, oui, pas oui. Forcément religieux non plus. C'était plutôt, on pourrait dire, un judaïsme politique, une frange politique.
Ou culturelle.
Oui.
Très culturelle. Donc le titre n'a pas été choisi au hasard. Il faut dire qu'il y a beaucoup de titres, hein, sur cet album. Je crois que c'est rare, hein. C'est 17 titres, c'est ça ? Oui. Comment vous avez choisi ces titres-là ? Est-ce que Benjamin, vous voulez nous répondre ?
Oui, en fait, exactement, il y a 14 morceaux, il y a 17 titres, puisqu'il y a quelques plages instrumentales où justement on a repris, comme on a voulu faire une espèce de trame de fond avec ce morceau éponyme, donc Arum Dem Fire, il y a trois titres qui sont en fait des petits interludes musicaux qui reprennent le thème musical dans différents styles. Comment ont été choisis les titres, c'est au gré des concerts, des essais entre nous de jouer des morceaux et puis de voir ceux avec lesquels on se sent à l'aise, ceux avec lesquels on a fait quelque chose d'original aussi.
Il faut dire que vous êtes le directeur musical, hein, de l'album, en plus d'être le contrebassiste,
oui,
et
ça.
Joueur de banjo.
Exactement.
Et de guitare.
Exactement, c'est ça qui se passe. C'est un groupe familial avec donc toute une énergie débordante et... moi, j'agis pour essayer de canaliser les énergies. C'est parce que c'est pas moi qui crée la musique. C'est-à-dire que la musique, elle se crée quand même par elle-même, avec les envies de chacun. Et souvent, je suis plutôt là pour essayer de canaliser un petit peu les énergies.
Alors, les énergies, et c'est ce qu'on aime, c'est qu'il y a des reprises de morceaux traditionnels. Et il y a, je crois, des nouveautés. Hein. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il y a vraiment des nouveautés ? Quand on entend des morceaux qui sont plus récents en hébreu, même en catalan, ce sont des morceaux aussi classiques qui ont été réinterprétés ou est-ce que c'est des morceaux nouveaux ? Est-ce que, Judith, vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, il y a des morceaux donc, qu'on considère dans la culture yiddish comme être des classiques de la culture yiddish.
Chiribi, Mabigazine.
Exactement. Oui. Et il y a des morceaux qui ont été plus trouvés un petit peu, souvent autour de hasard, en fait, et qui étaient un petit peu moins connus. Ça reste tous des morceaux...
du répertoire.
Du répertoire, oui. Voilà, c'est ça. Il y a eu des morceaux qui ont été trouvés sur Internet, il y a eu des morceaux qui ont été amenés comme ça à l'occasion d'une date par des personnes qui nous ont demandé ce morceau, etc. Donc il y a toujours une histoire qui est liée à ce morceau. Pour le morceau catalan, derrière, il se trouve qu'elle a été faite traduire par les Klezmatics, qui est donc ce célèbre groupe new-yorkais de musique klezmer et de chansons yiddish de reprise.
Qu'on salue au passage.
Qu'on salue. et donc, eux, ils ont demandé, ils ont cherché à faire une traduction yiddish de ce morceau catalan, qui, il se trouve, existe aussi en français.
Alors, vous êtes trois sœurs interprètes. Est-ce que ces morceaux, vous avez été bercées par eux ? Est-ce que vous parlez le yiddish ? Pourquoi cet engouement pour cette musique-là ?
Ça, je dirais que ça vient de Manu Siri, en fait, de ce côté-là. Et j'ajoute aussi au passage que cette tracklist, cette liste de morceaux pour le disque, a été choisie aussi avec elle, en fait.
Comment s'est fait la rencontre avec Manu Siri ?
C'est notre maman.
Je l'apprends. Eh bien, j'avais toutes les informations, mais pas celle-ci.
Oui,
d'accord.
C'était notre maman. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, on a commencé en tout cas à choisir avec elle le sujet de l'album Arôme d'Empire, certains des titres qu'elle avait proposés aussi, avant qu'elle nous quitte. Et puis après, donc, on a mené le projet à bien sans elle. Mais voilà, ça a été cette musique. En fait, elle nous faisait pas mal écouter quand on était enfant, de la musique juive, mais pas que du yiddish. En fait, au final, je trouve que le yiddish est venu assez tardivement dans ce qu'on a écouté avec elle. Elle avait fait j'en profite d'ailleurs pour dire qu'elle avait fait un film sur la musique orientale qui s'appelle Le Blues de l'Orient,
oui,
avec Florence Strauss. Et donc, on a pas mal écouté, par exemple, de la musique orientale, pas forcément juive aussi, mais pas que. Et voilà, donc il y avait tout un tas de musique orientale. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup Yair Dalal, par exemple. Ça, c'était quelque chose qu'elle nous faisait beaucoup écouter. J'ai un souvenir assez précieux quand même. C'est qu'elle nous avait offert un livre qui s'appelle Les Contines du Jardin d'Éden. Un très beau
que
livre.
Que j'aime beaucoup, oui. Et que je fais écouter à mes enfants encore aujourd'hui.
Voilà, c'est un magnifique livre. Et moi, ça a été un petit peu ma porte d'accès, on va dire, à la musique juive. Et ce qui est rigolo, c'est qu'entre Judith et moi, on ne s'est pas accroché sur les mêmes choses. Judith a plus accroché avec le yiddish. Et donc, c'est un peu elle qui porte pas mal cette responsabilité du yiddish. Et puis moi, j'ai pas mal accroché avec l'hébreu. Alors, on n'en fait pas dans les Marx Sisters, mais quand j'étais enfant, j'aimais bien les chansons en hébreu. Donc voilà, j'ai un souvenir très précis de ce livre avec des magnifiques dessins, des textes qui sont écrits en caractère hébraïque, ou même il y en avait en caractère... arabe, parce qu'il y avait des...
Oui, parce qu'il y a toutes les musiques juives, il y a du judéo-oriental, il y a du yiddish, de l'hébreu, même du ladino.
Oui.
Et c'est un... Alors, quand on vous entend, en fait, on sent qu'il y a des colorations différentes dans les voix et on comprend maintenant pourquoi ces raisons. Alors, les musiciens Benjamin Chabert et Raphaël Sétir, la musique klezmer, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, était une évidence ? Ou est-ce que c'était plus compliqué ? Bon, on va vous faire parler tous les deux, chacun votre tour. Et finalement, qu'est-ce qui fait l'identité du klezmer ? Est-ce que ce sont, au-delà des instruments utilisés, un rythme plus rapide, une sonorité différente ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'attrait pour le klezmer et la particularité de la musique klezmer ?
Alors, l'attrait pour le klezmer, de mon côté, il vient déjà du fait que mon grand-père était musicien. Alors, du coup, il ne jouait pas du klezmer du tout, mais il faisait de la musique juive, donc la judéo-arabe, en fait, puisqu'il était à Bagdad, en Irak, puis à Tel Aviv, en Israël, et puis en France. Ça m'a donné du goût pour l'accordéon. Et en fait, il se trouve que l'autre partie de ma famille est ashkénaze et vient d'Allemagne. Alors, en Allemagne, on ne parle plus yiddish depuis que le réformateur Mendelssohn a décidé que les juifs allemands allaient parler allemand. Mais j'ai quand même reçu, du côté de la famille de ma mère, des versions françaises de certaines chansons yiddish, comme par exemple « Et quand le rabbin danse », etc., etc. Et ça aussi, ça m'a donné beaucoup de goût pour ce qu'il y a de festif dans le klezmer, en fait. Après, l'éducation religieuse a fait le reste, j'ai envie de dire.
Alors, c'est un joli métissage, mais pour vous, quelle est la particularité par rapport au jazz, par rapport à d'autres sonorités de cette musique klezmer ?
Il y a quelque chose de l'ordre de la transe. Il y a quelque chose aussi que je trouve assez démocratique. Je vais prendre pour ça l'exemple du nigoun. Le nigoun, c'est quelque chose qu'on peut chanter, où on n'a pas besoin de connaître les paroles. C'est quelque chose où on n'a pas besoin de faire forcément des harmonies ou quoi que ce soit. On peut chanter tous à l'unisson, tout le monde peut participer, tout le monde peut chanter. Et le but du jeu avec le nigoun, c'est d'avoir quelque chose de collectif, où le rythme évolue un peu de lui-même, de révéler quelque chose de profond, en fait. Et c'est ça que j'aime dans le klezmer. C'est que ça me paraît à la fois facile d'accès, paradoxalement, Et en même temps, ça me paraît très puissant et très profond, quoi. C'est comme un point de départ vers... comme si le spirituel pouvait venir de quelque chose de très, très concret, en fait. Je sais pas si ça répond à votre question.
C'est transcendance. Non, c'est une très, très jolie réponse. Est-ce que vous appréhendez aussi, vous, cette musique de la même façon, Benjamin?
De toute façon, nous, on se retrouve embarqué dans cette aventure, donc on partage en fait toutes ces idées, donc on se nourrit aussi les uns les autres de différentes influences. Mais du coup, moi, pour répondre à cette question, à savoir d'où me vient la musique klezmer, c'est beaucoup plus une musique d'adoption pour moi, puisque j'ai pas du tout baigné là-dedans pendant mon enfance, et je découvre ça en fait à l'âge de mes 30 ans. Enfin, j'ai l'impression de redécouvrir quelque chose à 30 ans, ça me vient par le biais d'un instrument qui est la contrebasse. Donc je commence à jouer de la contrebasse à 30 ans, et pour me faire la main un petit peu, je me retrouve embarqué dans un atelier de musique klezmer. Et je commence à écouter en fait tous ces thèmes et à me dire, ça me sonne familier en fait, il y a quelque chose, donc c'est assez étonnant. Bon, alors c'est vrai qu'on les entend un petit peu, je sais pas, dans le métro, on va entendre des accordéonistes qui vont jouer à Vanagila ou des choses comme ça. Il y a des sonorités qu'on connaît, et puis même les thèmes que je connaissais pas, ou j'avais, tu vois, c'est comme si ça sonnait quelque chose qui était familier. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé embarqué là-dedans, un groupe de musique klezmer, on a entraîné un autre, puis j'ai fini par rencontrer les Marx Sisters, et puis voilà, on fait le chemin qu'on fait. Et donc, pour revenir un petit peu sur le côté spirituel, déjà, moi, je suis quelqu'un aussi assez profondément spirituel, et c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a une espèce de joie fondamentale et de tristesse et de drame fondamental qui s'exprime dans cette musique qui est très parlante et qui du coup fait qu'on est directement en fait investi par toutes ces émotions et c'est un petit peu il y a pas de filtre, on arrive à communiquer tout ça sans passer par un côté trop intellectuel. Le côté en effet simple de la musique permet d'y accéder directement, qu'on soit ou non, qu'on comprenne ou non le yiddish. C'est nous aussi ce qu'on constate sur scène, c'est qu'on fait beaucoup de dates, on a plein de publics, des publics qui sont pas du tout yiddishisants ou pas du tout même juifs, et il y a quelque chose d'extrêmement communicatif, qui se passe juste par la musique, l'énergie.
Et la musique klezmer, alors justement, Judith, c'est important cette idée d'universalisme. C'est pas un album juif pour les juifs, c'est une musique qui transcende toutes les traditions, qui est accessible à tous, et puis aussi à tous les publics, aussi bien aux gens qui sont formés aux notes de musique, à ceux qui sont totalement novices. Comment vous l'expliquez tout ça ?
C'est marrant parce que moi, là, tout ce qui se racontait m'évoquait beaucoup de choses. Et il y a cette question justement de mélange, de mixité qui est liée à la dimension diasporique de la culture juive, évidemment. Et elle se retrouve beaucoup dans la musique klezmer, puisque la musique klezmer elle-même, la musique klezmer et la chanson yiddish, et la langue yiddish, a elle-même dépassé des frontières. Il y a eu vraiment il y a des chansons qui viennent de Pologne, mais qui ont en fait, à un moment donné, hop, sont allées quand même en Lituanie, etc. Il y a eu toute cette dimension de ce moment où les juifs sont allés aux États-Unis, ou même en Argentine. Et donc, il y a de la musique yiddish un peu partout dans le monde. Et cette dimension de mixité, de mélange, se retrouve dans la musicalité, bien sûr. Dans la musique klezmer, il y a de la musique classique, il y a du jazz, il y a de la musique des Balkans, il y a de la musique orientale, il y a des thèmes orientaux, il y a des choses qui se retrouvent comme ça. Et il n'y a pas une... Il y a à la fois tout se ressemble et rien ne se ressemble. Et donc, je trouve que cette dimension universelle, elle est probablement liée à cette dimension diasporique dans laquelle je pense qu'aujourd'hui, universellement, on peut tous se retrouver. On est tous les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de peuples qui ont migré et émigré. Il se trouve que pour le judaïsme, c'est quelque chose qui est présent depuis la nuit des temps. C'est présent aujourd'hui, je trouve, dans beaucoup, beaucoup de cultures. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut se retrouver et que les gens dansent et qu'il y a cette dimension rythmique qui fait danser et qui fait vivre, et qu'on peut danser, rire et pleurer en même temps sur une même musique. Et ça, je trouve ça très important, de pouvoir exprimer toutes ces émotions au sein d'un même morceau.
Léa, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Finalement, on est tous, quel que soit le peuple auquel on appartient, des juifs errants, des gens qui ont puisé dans des traditions différentes, et ce qui fait que la musique klezmer est indémodable ?
Oui, je suis assez d'accord. Je pense que c'est particulièrement vrai pour la musique klezmer. Parce que c'est une musique qui, à l'origine, est née dans, comme ça. C'est une musique du voyage, en fait. Quelque chose que j'ai bien compris, d'ailleurs, avec les... Je pense à ça maintenant, donc je le dis, mais avec les BD de Johann Svarr, Klezmer, où enfin, ça image vraiment bien ce que c'est que... Enfin, d'où ça vient, en fait, qui étaient les gens qui jouaient cette musique.
Alors, on peut dire un mot, hein, les musiciens klezmer, peut-être que les auditrices et les auditeurs ne savent pas, ce sont des musiciens itinérants qui allaient de village en village, de shtetl en shtetl, pour participer aux événements familiaux et les accompagner en musique.
Tout à fait, tout à fait. Donc...
Et qui n'étaient pas forcément juifs.
Et pas forcément, pas forcément.
Tout à fait. Donc, je pense que la musique klezmer, en fait, par essence, elle rassemble et elle accueille. C'est, ça que, c'est les mots qui me viennent là depuis tout à l'heure quand j'entends parler mes amis. Donc, du coup, je pense que comme c'est son essence, les gens les auditeurs vont vite connecter avec les émotions que ça peut permettre de transmettre. Et effectivement, ce qu'on aime particulièrement dans ce répertoire-là, c'est les chansons. Et je pense que la voix, c'est quelque chose qui, de manière générale, universellement, va accrocher les gens. Et dans cette musique en particulier, parce que même si on ne comprend pas les textes, au final, les chansons, elles parlent un petit peu d'elles-mêmes, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de la fréquence juive, en compagnie des Marx Sisters, qui nous parlent de la sortie de leur album A Room Then Fire. Alors, il faut dire que votre actualité, elle est triple, peut-être même quadruple. Il y a la sortie d'un album, la sortie d'un vinyle, un concert et une tournée. Est-ce que chacun...
On vient même de sortir un clip.
Mais c'est magnifique.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est magnifique. Alors, est-ce que l'un après l'autre, vous pouvez nous dire un mot, eh bien, de ces expériences? Alors, peut-être Raphaël nous parler de l'album et de l'objet en lui-même, qui a un joli visuel, donc autour du feu, avec des lettres en yiddish ou en hébreu, puisque c'est les mêmes caractères, qui s'envolent et qui donnent l'impression d'un feu de camp.
Alors c'est ça, cette illustration, on la doit à Laurent Berman, que peut-être les auditrices et les auditeurs connaissent parce qu'il a été avec Anne Quesement l'auteur de nombreux livres qui comment dirais-je, s'appuient sur les caractères hébraïques. Et donc c'est lui qui nous a fait cette magnifique illustration dont on est très fiers, où on a la graphie du titre en yiddish. Ce qu'on voulait faire avec cet album, c'est en effet un objet. Un objet qui puisse permettre de rentrer à l'intérieur de cet univers de la veillée autour du feu. Parce que faut dire que l'idée de cet album, elle a commencé à prendre forme aussi en plein milieu du confinement. Et c'est une idée qui vient de Mano Siri, donc. Et on s'est dit qu'on allait peut-être en profiter pour essayer de dire que c'était aussi important pour nous la chaleur humaine, en fait. D'où l'importance aussi de l'objet. Parce qu'on nous a beaucoup dit « Ah, mais vous faites des disques, mais plus personne écoute de disques. » Je parle des CD, hein. Ça sert à rien de faire des CD. J'ai même plus de lecteur CD, même pas dans ma voiture. Ben oui, mais en fait, il y a quelque chose de désuet. Il y a quelque chose d'intime. Il y a quelque chose de
nostalgie, comme la musique yiddish.
Oui, mais alors, pas passéiste pour autant. Parce que justement, l'idée ici, c'est d'aller vers quelque chose de remettre au goût du jour, en fait. Et c'était très important pour nous.
Moderniser, voilà.
C'est ça, transmettre.
Et alors, donc, comme c'est à la mode en ce moment,
le vinyle.
On a fait un vinyle, exactement.
Oui.
Ça, c'est, l'idée est née aussi de...
Mais c'est génial, cette idée.
L'idée est née de là, et c'est vrai que là, on l'a sous les yeux, et on est extrêmement fiers et contents d'avoir créé cet objet, et il est magnifique.
Peut-être qu'en un mot, on peut le décrire pour les auditrices et les auditeurs,
oui.
Peut-être que ça va leur donner envie. Alors, on a une belle couverture. Il faut savoir qu'il y a deux vinyles à l'intérieur, ce qui fait que du coup on peut l'ouvrir comme un livre, puisqu'il y a un vinyle qui est glissé à l'intérieur de chacun des côtés. À gauche, on a une très belle flamme avec tous les crédits. En haut, on a notre petite dédicace donc à Mano Siri. Et à droite, on a une photo collector d'un concert d'il y a à peu près 2 ans. Avec presque la totalité des musiciens et des musiciennes qui sont présents sur cet album.
Il manque juste le batteur, en fait.
Et le pianiste. Et donc le photographe, oui, qui est également le joueur de tuba. Parce qu'on a tous plusieurs rôles dans ce groupe.
Et ensuite... on peut aussi raconter cette deuxième histoire familiale, c'est-à-dire qu'il y a non seulement les sœurs qui sont là, qui chantent, et la petite sœur qui joue de la clarinette, et, mais aussi il y a donc le joueur de trompette, le joueur de tuba et l'illustrateur qui sont une même famille et qui sont, s'étalent sur trois générations, c'est-à-dire que le grand-père a fait le dessin et a joué aussi d'ailleurs du bugle sur le premier disque, et ensuite son fils, enfin non, c'est pas son fils, mais bon, bref.
Son petit-fils. Non.
Oui, oui, c'est
son neveu.
Voilà, bon, en tout cas, c'est une histoire de famille et on voit que
trois générations voilà. qui participent au disque.
Et qu'il y a beaucoup de synergie et d'énergie puisque vous êtes très nombreux sur cet album. Et puis il y a évidemment ce concert hein, le lundi 16 mai prochain à l'Ermitage à Paris. Judith, est-ce que vous allez jouer des titres de vos deux albums ou ça sera uniquement axé sur ce nouveau ?
Alors ça va être essentiellement le nouvel album. Puisque les titres du premier album, nous les avons déjà bien lavés, bien essuyés, bien travaillés, bien éclusés. Et il y aura aussi quelques nouveaux titres, parce qu'on souhaite maintenant aussi aller vers encore quelque chose de neuf, un nouveau. On souhaite travailler vers un nouveau spectacle, une nouvelle setlist, quelque chose, des morceaux qui nous ressemblent. Parce que cet album, ce sont les morceaux choisis par notre maman. Maintenant, la suite, quoi. Maintenant, il faut aller vers autre chose, vers un avant, vers une nouveauté aussi. Donc, c'est un concert de transition, je trouve aussi. C'est un concert vers un autre temps. J'aime bien penser ça.
Et vers cette tournée, est-ce que vous avez déjà des éléments, Léa ou Judith, de la tournée qui s'annonce ?
C'est Judith qui a les éléments.
Oui.
Mais pendant ce temps-là, je peux vous parler du concert du 16 mai encore.
Oui, allez-y.
La première partie de ce concert, ce sera Muriel Miserlou. Voilà, c'est à partir de 20h30 et au studio de l'Ermitage. Et la billetterie est ouverte en ligne.
Alors, on va dire un mot justement dans un instant où on peut évidemment trouver l'album, le vinyle, et puis réserver pour les dates de ce concert et des autres à venir. Alors, un mot sur la tournée.
Oui. Attendez, je voulais juste, je termine sur le. On était en train de présenter ce concert, ça va quand même être un concert assez extraordinaire. Donc, on a tous les musiciens du disque qui vont venir, et donc on est quand même presque 12 musiciens sur scène, donc il y a du pour donner envie un peu aux auditeurs, il y a du piano, de l'accordéon, du violon, des trompettes, des tubas, des chanteuses magnifiques, des chanteurs aussi, qu'est-ce que j'ai oublié, de la clarinette,
la batterie,
voilà, donc c'est aussi, ça sera
la contrebasse, du banjo, de la guitare.
Voilà,
on a tout dit.
Donc, ça va être.
On est nombreux, c'est ça qu'il faut retenir.
C'est ça qu'il faut retenir.
On est nombreux sur scène, ça va être un gros événement.
Et donc, la tournée,
alors,
Judith ?
La tournée, alors, il se trouve que après le 16 mai, on se repose, deux semaines, mais après, on enchaîne. À partir du 2 juin, puisque le 2 juin, nous allons jouer à Ivry-sur-Seine au théâtre El Duende, qu'on embrasse.
Qu'on salue au passage, en
effet. Voilà. On va jouer ensuite au Vendredi de la Chartreuse. Alors ça, ce sera à Molsheim, en Alsace. Et encore après, en Bourgogne, le 4 juin, à l'occasion...
du 75e anniversaire.
Oui, c'est ça. Pas du château de Corvol, mais...
Non, du Clège.
Du Clège, j'ai eu un trou. Voilà.
Le château de Corvol, donc.
Voilà, et puis ensuite on va partir en juillet. On va partir à Combs-la-Ville.
Le 2 au Festival des Cultures à Combs-la-Ville.
Voilà, à Verneuil-d'Avray-Diton aussi.
Le 3.
C'est dans l'heure, ça, je crois.
Absolument, c'est dans l'heure.
Et ensuite un petit tour dans la Drôme.
Raphaël, hein.
Merci. Et ensuite un petit tour dans la Drôme pour finir cet été en beauté.
Alors, c'est beaucoup d'informations que vous nous donnez. Oui. En tout cas, on est diffusé sur toute la France et même à l'étranger, puisqu'il y a les podcasts. Si on est intéressé par acheter l'album, par acheter les vinyles, et puis avoir précisément les dates de la tournée et réserver des places pour le concert, est-ce que sur le site, il y a tout ? Est-ce que vous pouvez donner l'adresse du site ?
Alors, absolument. Le site, c'est très, très compliqué à retenir.
Ah.
C'est www.marxsisters.com.
Tout simplement.
Voilà, comme les Marx Sisters. Et sur ce site, vous allez pouvoir trouver donc l'agenda des concerts et aussi toutes nos actualités, la billetterie pour le 16 mai, donc le lundi 16 mai. Notre clip, tout fraîchement sorti, des photos qu'on vient de mettre en ligne, des belles photos.
Alors dites-nous un mot du clip, c'est un clip sur le titre juste autour du feu ou c'est
alors,
plus que
c'est
ça?
Alors c'est un clip, si vous voulez, il y avait plusieurs idées, donc là on est allé faire un clip sur la chanson que vous avez diffusée au début de l'émission en fait.
D'accord.
Oi Mame, Binir Farlipt. Pour ouvrir un petit peu donc cet album, puisque c'est le morceau qu'on a sorti en single, en fait, le 11 mars dernier. Et l'idée avec ce clip, c'était vraiment de faire quelque chose qui soit fidèle à l'énergie qu'on espère dégager sur scène, quoi. Comme une carte de visite, en fait, si vous voulez. Quelque chose d'accrocheur.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël? Est-ce que toute cette actualité est destinée à tous? Aux jeunes, aux moins jeunes, aux juifs, aux non-juifs, aux grands mélomanes, aux novices. C'est pour qui tout ça? À tous les auditrices et à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Shalom, est-ce que tout le monde peut s'y retrouver dans votre actualité?
On espère, on fait tout pour en tout cas, ouais.
Ah oui, il me semble que c'est complètement tout public, hein. C'est vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est autant pour les enfants que les grands-parents, et du coup, il n'y a pas de raison que les gens qui sont entre les deux ne s'y retrouvent pas non plus.
Je dirais même que c'est l'objectif.
Ouais. Oui, c'est vraiment comme on parlait justement du caractère familial un petit peu qui avait pu prendre la réalisation de ce disque, nous caractérise directement, c'est la dimension justement à la fois universelle et intergénérationnelle de notre approche musicale. C'est l'envie de partager justement partager ces moments avec tout le monde sans faire sans faire de cases ou du moment qu'on a des oreilles, cette musique vous est adressée.
Il y a une question classique, mais non moins difficile, pour conclure cette émission, si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom, eh bien de vous suivre. Judith, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je vais réfléchir un petit peu pour une ou deux phrases.
Est-ce que, Raphaël, quelque chose vous vient comme ça d'emblée en attendant Judith?
Moi j'ai envie de dire, venez, on va faire la fête, tout simplement. Mais je ne sais pas le dire en yiddish, par contre. Peut-être que vous pouvez m'aider. Oui, Lomir tanzen, Lomir singen, Lomir trinken.
Oui, on finit toujours notre newsletter par cette phrase, Lomir tanzen, Lomir singen, Aufenweg, ce qui veut dire sur le chemin. Et cette dimension de chemin et de cheminement collectif, elle est présente. Et nous, on aime la raconter avec de la musique et des chansons festives et entraînantes. Et aussi un petit peu mélancolique.
Merci infiniment Judith, Léa, Benjamin et Raphaël des Marx Sisters d'avoir accepté de répondre à nos questions pour les auditrices et les auditeurs de la fréquence juive dans du côté de chez Shfart. Je rappelle que votre actualité, c'est la sortie de l'album A Room Done Fire chez Inouï Distribution, hein, c'est ça, la sortie d'un vinyle, un concert le lundi 16 mai prochain en soirée à l'Ermitage à Paris et une tournée, et puis ce clip que l'on peut voir sur le site internet, hein, c'est ça, donc www.marxsisters.com.
C'est ça, voilà. Marx Sisters, pour les auditrices et les auditeurs qui auraient encore des doutes, c'est comme les Marx Brothers, M-A-R-X. Voilà.
Tout simplement. Et on se quitte en musique avec Der Philosoph. Est-ce que, Benjamin, vous pouvez nous en dire un mot? C'est quoi ce titre?
Oui, alors ce titre est assez singulier, en effet, parmi tous les titres de l'album. Donc c'est vraiment le titre le plus mélancolique, finalement, et le plus lent et le plus doux. Et les gens vont le découvrir, mais ça commence avec un petit faisceau de cordes et ça termine en apothéose. Donc voilà, on est très fiers de ce titre.
Eh bien, on l'écoute. Merci infiniment et à
très
bientôt.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci beaucoup. Neuron, I
Kummerer zum Rennstich und lernt sich das Seichen. Ja, Baba. Sitzt mir hier.